Chapitre 25. Ce même jour, entre 6 et 7 heures du soir, Raskolnikov se rendit chez sa mère et sa sœur. Les deux femmes habitaient maintenant dans la maison Bakaleïev, l'appartement dont Razoutmirine leur avait parlé. En montant l'escalier, Raskolnikov semblait encore hésiter. Toutefois, pour rien au monde, il n'aurait rebroussé chemin. Il était décidé à faire cette visite. D'ailleurs, elles ne savent encore rien, pensait-il, et elles sont déjà habituées à voir au moins un original. Ses vêtements étaient souillés de boue et déchirés. D'autre part, la fatigue physique, jointe à la lutte qui se livrait en lui depuis près de 24 heures, avait rendu son visage presque méconnaissable. Le jeune homme avait passé la nuit entière, Dieu sait tout. Mais du moins, son parti était pris. Il frappa à la porte, sa mère lui ouvrit. Dounetchka était sortie et la servante n'était pas non plus à la maison en ce moment. Pulkheri Alexandrovna resta d'abord muette de surprise et de joie. Puis elle prit son fils par la main et l'entraîna dans la chambre. « Ah, te voilà !» dit-elle d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Ne te fâche pas, Rodia. Si j'ai la sottise de t'accueillir avec des larmes, c'est le bonheur qui les fait couler. Tu crois que je suis triste ? Non, non, je suis gaie, je ris, seulement j'ai cette sotte habitude de verser les larmes. Depuis la mort de ton père, je pleure comme cela à propos de tout. Assieds-toi, mon chéri, tu es fatigué, je le vois. » « Oh, que tu es sale !»« J'ai reçu la pluie hier, maman, » commença Raskolnikov. « Laisse donc !» l'interrompit vivement Pulkheri Alexandrovna. « Tu pensais que j'allais t'interroger avec ma curiosité de vieille femme ? Oh, sois tranquille, je comprends. Je comprends tout. » Maintenant, je suis déjà un peu initié aux usages de Pétersbourg. Et vraiment, je vois moi-même qu'on est plus intelligent ici que chez nous. Je me suis dit une fois pour toutes que je n'avais pas besoin de m'immiscer dans tes affaires et de te demander des comptes. Pendant que peut-être tu as l'esprit occupé, Dieu sait de quelle pensée, j'irai moi te troubler par mes questions importunes, ô Seigneur. Vois-tu, Rodia, je suis en train de lire pour la troisième fois l'article que tu as publié dans une revue. Dimitri Prokofitch me l'a apporté. Ça a été une révélation pour moi. Dès lors, en effet, je me suis tout expliqué et j'ai reconnu combien j'avais été bête. Voilà ce qui l'occupe, me suis-je dit. Il roule dans sa tête des idées nouvelles et il n'aime pas qu'on l'arrache à ses réflexions. Tous les savants sont ainsi. Malgré l'attention avec laquelle je te lis, il y a dans ton article, mon ami, bien des choses qui m'échappent. Mais, ignorante comme je suis, j'ai pas lieu de m'étonner si je ne comprends pas tout. Montre-le-moi donc, maman. Raskolnikov prit le numéro de la revue et jeta un rapide coup d'œil sur son article. Un auteur éprouve toujours un vif plaisir à se voir imprimé pour la première fois, surtout quand cet auteur n'a que 23 ans. Bien qu'en proie aux plus cruels soucis, notre héros ne put se soustraire à cette impression, mais elle ne dura chez lui qu'un instant. Après avoir lu quelques lignes, il fronça le sourcil, et une affreuse souffrance lui serra le cœur. Cette lecture lui avait soudain rappelé toutes les agitations morales des derniers mois. Ce fut avec un sentiment de violente répulsion qu'il jeta la brochure sur la table. « Mais toute bête que je suis, Rodia, je puis néanmoins juger que, d'ici à très peu de temps, tu occuperas une des premières places. » Sinon la première dans le monde de la science. Et ils ont osé penser que tu étais fou. Ah, tu sais pas que cette idée leur était venue. Oh, les pauvres gens. Dirais-je, comment pourraient-ils comprendre ce que c'est que l'intelligence? Dire pourtant que Dounetchka, oui, Dounetchka elle-même, n'était pas trop éloignée de le croire. Est-ce possible? Il y a 6 ou 7 jours, on dit, je me désolais en voyant comme tu es logé, habillé et nourri. Mais maintenant, je reconnais que c'était encore une sottise de ma part. En effet, dès que tu le voudras, avec ton esprit et ton talent, tu arriveras d'emblée à la fortune. Pour le moment, sans doute, tu n'y tiens pas, tu t'occupes de choses beaucoup plus importantes. Dounia n'est pas ici, maman? Non, Rodia, oh, elle est très souvent dehors. Elle me laisse seule. Dimitri Prokofitch a la bonté de venir me voir et il me parle toujours de toi. Il t'aime et t'estime, mon ami. Pour ce qui est de ta sœur, je ne me plains pas du peu d'égards qu'elle me témoigne. Elle a son caractère, comme j'ai le mien. Il lui plaît de me laisser ignorer ses affaires, libre à elle. Moi, je n'ai rien de caché pour mes enfants. Sans doute, je suis persuadé que Dounia est fort intelligente, que de plus, elle a beaucoup d'affection pour moi et pour toi. Mais je ne sais à quoi aboutira tout cela. Je regrette qu'elle ne puisse profiter de la bonne visite que tu me fais. À ce retour, je lui dirai: en ton absence, ton frère est venu. Où étais-tu pendant ce temps-là? Mais toi, Rodia, ne me gâte pas trop. Passe chez moi quand tu pourras le faire sans te déranger. Si tu n'es pas libre, ne te gêne pas, je prendrai patience. Il me suffira de savoir que tu m'aimes. Je lirai tes ouvrages, j'entendrai parler de toi par tout le monde et de temps en temps, je recevrai ta visite. Que puis-je désirer de plus? Aujourd'hui, tu es venu consoler ta mère, je le vois. Brusquement, Pulcheria Alexandrovna fondit en larmes. Oh, me voilà encore. Oh, fais pas attention à moi, je suis folle. Ah, oh, Seigneur, mais je ne pense à rien, s'écria-t-elle en se levant tout à coup. Il y a du café, je t'en offre pas. Tu vois ce que c'est que l'égoïsme des vieilles gens. Mais tout de suite, mais tout de suite. Oh, ce n'est pas la peine, maman, je vais m'en aller. Je ne suis pas venu ici pour cela. Écoutez-moi, je vous en prie. Pulcheria Alexandrovna s'approcha timidement de son fils. Maman, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez dire de moi, m'aimerez-vous comme maintenant? Demanda-t-il soudain. Oh, ces paroles jaillirent spontanément du fond de son cœur avant qu'il eût eu le temps d'en mesurer la portée. Rodia, Rodia, qu'as-tu? Mais comment peux-tu donc me faire cette question? Mais qui osera jamais me dire du mal de toi? Si quelqu'un se permettait cela, je refuserais de l'entendre et le chasserais de ma présence. Le but de ma visite était de vous assurer que je vous ai toujours aimé, et maintenant, je suis bien aise que nous soyons seuls, bien aise même que Dounetchka ne soit pas ici, poursuivit-il avec le même élan. Peut-être serez-vous malheureuse. Sachez seulement que votre fils vous aime maintenant plus que lui-même et que vous avez eu tort de mettre en doute sa tendresse. Jamais je ne cesserai de vous aimer. Allons. Assez, j'ai cru que je devais avant tout vous donner cette assurance. Pulcheria Alexandrovna embrassa silencieusement son fils, le pressa contre sa poitrine et pleura sans bruit. Je ne sais pas ce que tu as, Rodia, dit-elle enfin. Jusqu'ici, j'avais cru tout bonnement que notre présence t'ennuyait. À présent, je vois qu'un grand malheur te menace et que tu vis dans l'anxiété. Je m'en doutais, Rodia. Pardonne-moi de te parler de cela, j'y pense toujours, mais j'en perds le sommeil. La nuit dernière, ta sœur a eu le délire, et dans les paroles qu'elle prononçait, ton nom revenait sans cesse. J'ai entendu quelques mots, mais j'y ai rien compris. Depuis ce matin jusqu'au moment de ta visite, j'ai été comme un condamné qui attend l'exécution. J'avais le pressentiment de quelque chose. Oh Dia, où vas-tu donc? Car tu es sur le point de partir, n'est-ce pas? Oui, oh, je l'avais deviné. Mais je puis aller avec toi si tu dois partir. Dunia nous accompagnera. Elle t'aime beaucoup. S'il le faut, eh bien, nous prendrons aussi avec nous Sophie Semyonovna, vois-tu? Je suis toute prête à l'accepter pour fille. Dmitri Prokofitch nous aidera dans nos préparatifs de départ, mais où vas-tu donc? Adieu, maman. Quoi? Aujourd'hui même? S'écria-t-elle comme s'il se fût agi d'une séparation éternelle. Non, je ne puis pas rester. Il faut absolument que je vous quitte. Et je ne puis pas aller avec toi? Non, mais mettez-vous à genoux et priez Dieu pour moi. Il entendra peut-être votre prière. Puisse-t-il l'entendre? Je vais te donner ma bénédiction, ô Seigneur. Oui, il était bien aise que sa sœur n'assistât pas à cette entrevue. Pour s'épancher en liberté, sa tendresse avait besoin du tête-à-tête, et un témoin quelconque, fût-ce Dounia, l'aurait gêné. Il tomba aux pieds de sa mère et les baisa. Pulcheria Alexandrovna et son fils s'embrassèrent en pleurant. La première ne fit plus aucune question. Elle avait compris que le jeune homme traversait une crise terrible et que son sort allait se décider dans un moment. Rodia, mon chéri, mon premier-né, dit-elle à travers ses sanglots, te voilà maintenant tel que tu étais dans ton enfance. C'est ainsi que tu venais m'offrir tes caresses et tes baisers. Jadis, du vivant de ton père, lui et moi n'avions au milieu de nos malheurs d'autre consolation que ta présence. Et depuis que je l'ai enterré, combien de fois n'avons-nous pas, toi et moi, pleuré sur sa tombe en nous tenant embrassés comme à présent? Si je pleure depuis longtemps, c'est que mon cœur maternel avait des pressentiments sinistres. Le soir où nous sommes arrivés à Pétersbourg, dès notre première entrevue, ton visage m'a tout appris. Et aujourd'hui, quand je t'ai ouvert la porte, j'ai pensé, en te voyant, que l'heure fatale était venue. Oh Dia, tu ne pars pas tout de suite. Non. Tu viendras encore. Oui, je viendrai. Oh Dia, ne te fâche pas. Je n'ose t'interroger. Dis-moi seulement deux mots. Tu vas loin d'ici? Fort loin. Tu auras là un emploi, une position? J'aurai ce que Dieu m'enverra. Priez seulement pour moi. Raskolnikov voulait sortir, mais elle se cramponna à lui et le regarda en plein visage avec une expression de désespoir. Ah, c'est maman, dit le jeune homme, qui, témoin de cette douleur navrante, regrettait profondément d'être venu. Mais tu ne pars pas pour toujours, tu ne vas pas te mettre en route tout de suite, tu viendras demain. Oui, adieu. Il réussit enfin à s'échapper. La soirée était chaude sans être étouffante. Depuis le matin, le temps s'était éclairci. Raskolnikov regagna vivement sa demeure. Il voulait avoir tout fini avant le coucher du soleil. Pour le moment, toute rencontre lui eût été fort désagréable. En montant à sa chambre, il remarqua qu'Anastasia, alors occupée à préparer le thé, avait interrompu sa besogne et le suivait d'un œil curieux. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un chez moi? Se dit-il. Et malgré lui, il songea à l'odieux Porphyre. Mais quand il ouvrit la porte de son logement, il aperçut Dounetchka. La jeune fille, assise sur le divan, était pensive. Sans doute elle attendait son frère depuis longtemps. Il s'arrêta sur le seuil. Elle eut un mouvement d'effroi, se redressa et le regarda longuement. Une immense désolation se lisait dans les yeux de Dounia. Ce seul regard prouva à Raskolnikov qu'elle savait tout. Dois-je m'avancer vers toi ou me retirer? Demanda-t-il avec hésitation. J'ai passé toute la journée à t'attendre chez Sophie Semyonovna. Nous comptions t'y voir. Raskolnikov entra dans la chambre et se laissa tomber avec accablement sur une chaise. Je me sens faible, Dounia. Je suis très fatigué. Et en ce moment surtout, j'aurai besoin de toutes mes forces. Il jeta sur sa sœur un regard défiant. Et où as-tu donc été durant toute la nuit dernière? Je m'en souviens pas bien. Vois-tu, ma sœur, je voulais prendre un parti définitif et plusieurs fois je me suis approché de la Neva. Cela me le rappelle. Mon intention était d'en finir ainsi, mais je n'ai pas pu m'y résoudre, acheva-t-il à voix basse, en cherchant à lire sur le visage de Dounia l'impression produite par ses paroles. Dieu soit loué. C'était précisément ce que nous craignions, Sophie Semyonovna et moi. Mais si tu crois encore à la vie, Dieu soit loué. Raskolnikov eut un sourire amer. Vous n'y croyez pas, mais tout à l'heure j'ai été chez notre mère et nous nous sommes embrassés en pleurant. Je suis incrédule et pourtant je lui ai demandé de prier pour moi. Dieu sait comment cela se fait, Dounetchka. Moi-même, je ne comprends rien à ce que j'éprouve. « Tu as été chez notre mère? Tu lui as parlé ?» s'écria Dounia, épouvantée. « Se peut-il que tu aies eu le courage de lui dire cela ?»« Non, je ne lui ai pas dit verbalement, mais elle se doute de quelque chose. Elle t'a entendu rêver tout haut la nuit dernière. Je suis sûr qu'elle a déjà deviné la moitié de ce secret. J'ai peut-être eu tort d'aller la voir. » Je ne sais même pourquoi je l'ai fait. Je suis un homme bas, Dounia. Oui, mais un homme prêt à aller au-devant de l'expiation, tu iras, n'est-ce pas? Pas à l'instant. Pour fuir ce déshonneur, je voulais me noyer, Dounia, mais au moment où j'allais me jeter à l'eau, je me suis dit qu'un homme fort ne doit pas avoir peur de la honte. C'est de l'orgueil, Dounia. Oh oui, Rodia. Une sorte d'éclair s'alluma dans ses yeux ternes. Il semblait heureux de penser qu'il avait conservé son orgueil. Tu ne penses pas, ma sœur, que j'ai eu simplement peur de l'eau? Demanda-t-il avec un sourire désagréable. Oh, Rodia, assez! Répondit la jeune fille blessée de cette supposition. Tous deux restèrent silencieux pendant 10 minutes. Raskolnikov tenait les yeux baissés. Dounetchka le considérait avec une expression de souffrance. Tout à coup, il se leva. L'heure s'avance, il est grand temps de partir. Je vais me livrer, mais je ne sais pourquoi je fais cela. De grosses larmes jaillirent sur les joues de Dounetchka. Tu pleures, ma sœur, mais peux-tu me tendre la main? En doutais-tu? Elle le serra avec force contre sa poitrine. Est-ce qu'en t'offrant à l'expiation, tu n'effaceras pas la moitié de ton crime? S'écria-t-elle, et en même temps elle embrassait son frère. Mon crime? Mais quel crime? Répliqua-t-il dans un soudain accès de colère. Celui d'avoir tué une vermine sale et malfaisante? Une vieille usurière nuisible à tout le monde? Un vampire qui suçait le sang des pauvres? Mais un tel meurtre devrait obtenir l'indulgence pour 40 péchés. Je n'y pense pas et ne songe nullement à l'effacer. Qu'ont-ils tous à me crier de tous côtés? Crime, crime! Maintenant que je me suis décidé à affronter gratuitement ce déshonneur, maintenant seulement, l'absurdité de ma lâche détermination m'apparaît dans tout son jour. C'est simplement par bassesse et par impuissance que je me résous à cette démarche, à moins que ce ne soit aussi par intérêt, comme me le conseillait ce Porphyre. Frère, frère, que dis-tu? Mais tu as versé le sang, répondit Dounia, consternée. Eh bien quoi? Tout le monde le verse? Poursuivit-il avec une véhémence croissante. Il a toujours coulé à flot sur la terre. Les gens qui le répandent comme du champagne montent ensuite au Capitole et sont proclamés bienfaiteurs de l'humanité. Examine les choses d'un peu plus près avant de les juger. Je voulais faire moi aussi du bien aux hommes. Des centaines, des milliers de bonnes actions eussent amplement racheté cette unique sottise. Et quand je dis sottise, je devrais dire plutôt maladresse. Car l'idée n'était pas si sotte qu'elle en a l'air maintenant. Après l'insuccès, les desseins les mieux concertés paraissent idiots. Je ne voulais pas cette bêtise, que me créer une situation indépendante, assurer mes premiers pas dans la vie, me procurer des ressources, ensuite j'aurais pris mon essor. Mais j'ai échoué, et c'est pourquoi je suis un misérable. Si j'avais réussi, on me tresserait des couronnes, tandis qu'à présent, je ne suis plus bon qu'à jeter aux chiens. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Mon frère, que dis-tu? Oh, il est vrai que je n'ai pas procédé selon les règles de l'esthétique. Décidément, je ne comprends pas pourquoi il est plus glorieux de lancer des bombes contre une ville assiégée que d'assassiner quelqu'un à coup de hache. La crainte de l'esthétique est le premier signe de l'impuissance. Jamais je ne l'ai mieux senti qu'à présent, et moins que jamais je comprends quel est mon crime. Jamais je n'ai été plus fort, plus convaincu qu'en ce moment. Oh, son visage pâle et défait s'était subitement coloré. Mais comme il venait de proférer cette dernière exclamation, ses yeux rencontrèrent par hasard ceux de Dounia. Elle le regardait avec tant de tristesse que son exaltation tomba tout à coup. Il ne put s'empêcher de se dire qu'en somme, il avait fait le malheur de ces deux pauvres femmes. Dounia, chère, si je suis coupable, pardonne-moi, quoique je ne mérite aucun pardon si réellement je suis coupable. Allez, adieu, ne disputons plus ensemble. Il est temps, grand temps de partir. Non, ne me suis pas, je t'en supplie. J'ai encore une visite à faire. Va à l'instant retrouver notre mère et reste auprès d'elle. Je te le demande en grâce, c'est la dernière prière que je t'adresse. Ne la quitte pas. Je l'ai laissée fort inquiète et je crains qu'elle ne résiste pas à son chagrin. Ou elle mourra ou elle deviendra folle. Veille donc sur elle. Razumihin ne vous abandonnera pas, je lui ai parlé. Ne pleure pas sur moi. Quoiqu'assassin, je tâcherai d'être toute ma vie courageux et honnête. Peut-être entendras-tu un jour parler de moi. Je ne vous déshonorerai pas, tu verras. Je prouverai encore. Allez, maintenant, au revoir. Se hâta-t-il d'ajouter, en remarquant une étrange expression dans les yeux de Dounia, tandis qu'il faisait ses promesses. Pourquoi pleures-tu ainsi? Ne pleure pas, nous ne nous quittons pas pour toujours. Ah oui, attends, j'oubliais. Il alla prendre sur la table un gros livre couvert de poussière, l'ouvrit et en tira une petite aquarelle peinte sur ivoire. C'était le portrait de la fille de sa logeuse, la jeune personne qu'il avait aimée. Pendant un instant, il considéra ce visage expressif et souffreteux, puis il baisa le portrait et le remit à Dounetchka. J'ai bien des fois causé de cela avec elle seule, dit-il rêveusement. J'ai fait confidence à son cœur de ce projet qui devait avoir une issue si lamentable. Sois tranquille, continua-t-il en s'adressant à Dounia. Elle en a été révoltée tout autant que toi, et je suis bien aise qu'elle soit morte. Puis revenant à l'objet principal de ses préoccupations. L'essentiel maintenant, dit-il, et de savoir si j'ai bien calculé ce que je vais faire et si je suis prêt à en accepter toutes les conséquences. On prétend que cette épreuve m'est nécessaire. Est-ce vrai? Quelle force morale aurais-je acquise quand je sortirai du bagne, brisé par 20 années de souffrance? Sera-ce alors la peine de vivre? Je consens d'apporter le poids d'une existence pareille. Oh, j'ai senti que j'étais lâche ce matin au moment où de me jeter dans la Neva. À la fin, tous deux sortirent. Dounia n'avait été soutenue durant cette pénible entrevue que par son amour pour son frère. Ils se quittèrent dans la rue. Après avoir fait 50 pas, la jeune fille se retourna pour voir une dernière fois Raskolnikov. Lorsqu'il fut arrivé au coin de la rue, lui-même se retourna aussi. Leurs yeux se rencontrèrent, mais remarquant que le regard de sa sœur était fixé sur lui, il fit un geste d'impatience et même de colère pour l'inviter à continuer son chemin. Ensuite, il disparut au tournant de la rue. La nuit commençait à tomber quand il arriva chez Sonia. Pendant toute la journée, la jeune fille l'avait attendue avec anxiété. Dès le matin, elle avait reçu la visite de Dounia. Celle-ci était allée la voir, ayant appris la veille par Svridrigaïlov que Sophie Siemenovna savait cela. Nous ne rapporterons pas en détail la conversation des deux femmes. Bornons-nous à dire qu'elles pleurèrent ensemble et se lièrent d'une étroite amitié. De cette entrevue, Dounia emporta du moins la consolation de penser que son frère ne serait pas seul. C'était Sonia qui, la première, avait reçu sa confession. C'était à elle qu'il s'était adressé lorsqu'il avait senti le besoin de se confier à un être humain. Elle l'accompagnerait en quelques lieux que la destinée l'envoya. Sans avoir fait de questions à cet égard, Avdotia Romanovna en était sûre. Elle considérait Sonia avec une sorte de vénération qui rendait la pauvre fille toute confuse, car celle-ci se croyait indigne de lever les yeux sur Dounia. Depuis sa visite chez Raskolnikov, l'image de la charmante personne qu'il avait si gracieusement saluée ce jour-là était restée dans son âme comme une des visions les plus belles et les plus ineffaçables de sa vie. À la fin, Dounetchka se décida à aller attendre son frère au domicile de ce dernier, se disant qu'il ne pouvait faire autrement que d'y passer. Sonia ne fut pas plutôt seule que la pensée du suicide probable de la Raskolnikov lui ôta tout repos. C'était aussi la crainte de Dounia. Mais en causant ensemble, les deux jeunes filles s'étaient donné l'une à l'autre toutes sortes de raisons pour se tranquilliser, et elles y avaient en partie réussi. Dès qu'elles se furent quittées, l'inquiétude se réveilla chez chacune d'elles. Sonia se rappela ce que Svidrigaïlov lui avait dit la veille. « Bon, Raskolnikov n'a que le choix entre deux alternatives, aller en Sibérie ou... » Et de plus, elle connaissait l'orgueil du jeune homme et son absence de sentiments religieux. Est-il possible qu'il se résigne à vivre uniquement par pusillanimité, par crainte de la mort ? Pensait-elle avec désespoir. Déjà, elle ne doutait plus que le malheureux n'eût mis fin à ses jours quand il entra chez elle. Un cri de joie s'échappa de la poitrine de la jeune fille, mais lorsqu'elle eut observé plus attentivement le visage du visiteur, elle pâlit soudain. « Allons, oui, » dit en riant Raskolnikov. « Je viens chercher tes croix, Seigneur. C'est toi qui m'as engagé à aller au carrefour, maintenant que je vais m'y rendre. Mais d'où vient que tu as peur ?» Sonia le considéra avec étonnement. Ce ton lui paraissait étrange. Un frisson parcourut son corps, mais au bout d'une minute, elle comprit que cette assurance était feinte. Raskolnikov, en lui parlant, regardait dans le coin et semblait craindre de fixer ses yeux sur elle. Ben, « Vois-tu, Sonia, j'ai jugé que cela vaudrait mieux. Il y a ici une circonstance, or ce serait trop long à raconter, et j'en ai pas le temps. C'est tout ce qui m'irrite. Je me sens furieux à la pensée que dans un instant, toutes ces brutes m'entoureront, braqueront leurs yeux sur moi, me poseront de stupides questions auxquelles il faudra répondre, me montreront du doigt. Ah, tu sais, je n'irai pas chez Porphyre. Il m'est insupportable. Je préfère aller trouver mon ami Poudre. Ah, ce que celui-là sera surpris. Je puis compter sur un joli succès d'étonnement. Mais il faudrait avoir plus de sang-froid. Oh, dans ces derniers temps, je suis devenu fort irritable. Le croiras-tu? Peu s'en est valu tantôt que je l'ai montré le poing à ma sœur, et cela parce qu'elle s'était retournée pour me voir une dernière fois. Suis-je tombé assez bas? Eh bien, où sont les croix? Le jeune homme ne semblait pas dans son état normal. Il ne pouvait ni rester une minute en place, ni fixer sa pensée sur un objet. Ses idées se succédaient sans transition, ou pour mieux dire, il battait la campagne. Ses mains tremblaient légèrement. Sonia gardait le silence. Elle tira d'une boîte deux croix, l'une en cyprès, l'autre en cuivre. Puis elle se signa et, après avoir répété la même cérémonie sur la personne de Raskolnikov, lui passa au cou la croix de cyprès. Ah, c'est une manière symbolique d'exprimer que je me charge d'une croix, comme si aujourd'hui seulement je commençais à souffrir. La croix de cyprès, c'est celle des petites gens. La croix de cuivre appartenait à Elisabeth. Tu la gardes pour toi, montre-la un peu. Ah, si elle la portait à ce moment-là. Oh oui, je connais deux autres objets de piété, une croix d'argent et une image. Oh, je les ai jetés alors sur la poitrine de la vieille. Voilà ce que je devrais maintenant me mettre au cou. Non, mais je ne dis que des fadaises et j'oublie mon affaire. Là, je suis distrait. Bah, tu sonnes, Nia. Je suis venu surtout pour te prévenir, hein, afin que tu saches. Bon, eh bien, voilà tout. Je ne suis venu que pour cela. Je croyais pourtant avoir autre chose à te dire. Voyons, tu as toi-même exigé de moi cette démarche. Je vais être mis en prison et ton désir sera satisfait. Pourquoi donc pleures-tu? Toi aussi, cesse, assez, oh, que tout cela va être pénible. À la vue de Sonia en larmes, son cœur se serrait. Mais que suis-je pour elle, se disait-il à part soi. Et pourquoi s'intéresser à moi comme pourrait le faire ma mère ou Dounia? Elle sera ma Mninia. Fais le signe de la croix, dis une petite prière, supplia d'une voix tremblante la jeune fille. Oh, soit, je prierai tant que tu voudras, et de bon cœur, Sonia, de bon cœur. Ce n'était pas tout ce qu'il avait envie de dire. Il fit plusieurs signes de croix. Sonia noua autour de sa tête un mouchoir vert en drap de dame, le même probablement dont Marmeladov avait parlé naguère au cabaret et qui servait alors à toute la famille. Cette pensée traversa l'esprit de Raskolnikov, mais il s'abstint de questionner à ce sujet. Il commençait à s'apercevoir qu'il avait des distractions continuelles et qu'il était extrêmement troublé. Cela l'inquiétait. Tout à coup, il remarqua que Sonia se préparait à sortir avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Reste, reste. Oh, je veux être seul! S'écria-t-il d'une voix irritée, et il se dirigea vers la porte. Quel besoin d'aller là avec toute une suite! Grommela-t-il en sortant. Sonia n'insista point. Il ne lui dit même pas adieu. Il l'avait oublié. Une seule idée l'occupait maintenant. Est-ce que réellement c'en est fait? Se demandait-il tout en descendant l'escalier. N'y a-t-il pas moyen de revenir en arrière, de tout arranger, de ne pas aller là? Néanmoins, il poursuivit sa marche, comprenant soudain que l'heure des hésitations était passée. Dans la rue, il se rappela qu'il n'avait pas dit adieu à Sonia, qu'elle s'était arrêtée au milieu de la chambre, qu'un ordre de lui l'avait comme cloué à sa place. Il se posa alors une autre question qui, depuis quelques minutes, hantait son esprit sans se formuler nettement. Et pourquoi lui ai-je fait cette visite? Je lui ai dit que je venais pour affaire, mais quelle affaire? Je n'en ai absolument aucune. Pour lui apprendre que je vais là? Oh, cela était bien nécessaire. Pour lui dire que je l'aime? Oh, allons donc. Je viens tout à l'heure de la repousser comme un chien. Quant à sa croix, quel besoin en avais-je? Oh, que je suis tombé bas! Non, oh, ce qu'il me fallait, c'était ses larmes. Ce que je voulais, c'était jouir des déchirements de son cœur. Peut-être aussi ne chercher en allant la voir qu'à gagner du temps, à retarder un peu le moment fatal. Hé, j'ai osé rêver de haute destinée. Je me suis cru appelé à faire de grandes choses, moi, si vil, si misérable, si lâche. Il cheminait le long du quai et n'avait plus loin à aller. Mais quand il arriva au pont, il suspendit un instant sa marche, puis se dirigea brusquement vers le marché au foin. Ses regards se portaient avidement à droite et à gauche. Il s'efforçait d'examiner chaque objet qu'il rencontrait et ne pouvait concentrer son attention sur rien. Dans 8 jours, dans 1 mois, songeait-il, je repasserai sur ce quai, une voiture cellulaire m'emportera quelque part. De quel œil alors contemplerai-je ce canal? Remarquerai-je encore l'enseigne que voici? Le mot compagnie est écrit là. Le lirai-je alors comme je le lis aujourd'hui? Quelles seront mes sensations et mes pensées? Oh mon Dieu! Oh que toutes ces préoccupations-là sont mesquines! Bon, sans doute cela est curieux. Dans son genre, de quoi vais-je m'inquiéter? Je fais l'enfant, je pose vis-à-vis de moi-même. Mais pourquoi au fait rougirais-je de mes pensées? Oh, quel cahut! Ce gros homme, un Allemand selon toute apparence, qui vient de me pousser, sait-il à qui il a donné un coup de coude? Cette femme qui tient un enfant par la main et qui demande l'aumône me croit peut-être plus heureux qu'elle. Ce serait drôle. Je devrais bien lui donner quelque chose pour la curiosité du fait. Bah, je me trouve avoir 5 kopecks en poche. Par quel hasard? Tiens, prends, Matouchka. Que Dieu te conserve, fit la mendiante d'un ton pleurard. Le marché au foin était alors rempli de monde. Cette circonstance déplaisait fort à Raskolnikov. Toutefois, il se dirigea précisément du côté où la foule était le plus compacte. Il aurait acheté la solitude à n'importe quel prix, mais il sentait en lui-même qu'il n'en pourrait jouir une seule minute. Arrivé au milieu de la place, le jeune homme se rappela tout à coup les paroles de Sonia. « Va au carrefour, salue le peuple, baise la terre que tu as souillée par ton péché, et dis tout haut à la face du monde, je suis un assassin. » À ce souvenir, il trembla de tout son corps. Les angoisses des jours précédents avaient tellement desséché son âme qu'il fut heureux de la trouver encore accessible à une sensation d'un autre ordre et s'abandonna tout entier à celle-ci. Un immense attendrissement s'empara de lui. Ses yeux se remplirent de larmes. Il se mit à genoux au milieu de la place, se courba jusqu'à terre et baisa avec joie le sol boueux. Après s'être relevé, il s'agenouilla de nouveau. « Ah voilà, qui s'est pas ménagé !» remarqua un gars à côté de lui. Cette observation fut accueillie par des éclats de rire. Ben, « C'est un pèlerin qui va à Jérusalem, mes amis, il prend congé de ses enfants. » Sa patrie, il salue tout le monde. Il donne le baiser d'adieu à la ville de Pétersbourg et au sol de la capitale, ajouta un bourgeois légèrement pris de boisson. Ben, il est encore tout jeune, dit un troisième. Oh, c'est un noble, observa sérieusement quelqu'un. Bon, au jour d'aujourd'hui, on distingue plus les nobles de ce qu'ils sont pas. En se voyant l'objet de l'attention générale, Raskolnikov perdit un peu de son assurance et les mots « j'ai tué » qui allaient peut-être sortir de sa bouche expirèrent sur ses lèvres. Les exclamations, les lazzi de la foule le laissèrent d'ailleurs indifférent et ce fut avec calme qu'il prit la direction du commissariat de police. chemin faisant, une seule vision attirait ses regards. Du reste, il s'était attendu à la rencontrer sur sa route, et elle ne l'étonna pas. Au moment où, sur le marché au foin, il venait de se prosterner pour la seconde fois jusqu'à terre, il avait aperçu à 50 pas de lui Sonia. La jeune fille avait essayé d'échapper à sa vue en se cachant derrière une des baraques en bois qui se trouve sur la place. Ainsi, elle l'accompagnait, tandis qu'il gravissait ce calvaire. Dès cet instant, Raskolnikov acquit la conviction que Sonia était à lui pour toujours et le suivrait partout, dût sa destinée le conduire au bout du monde. Le voici arrivé au lieu fatal. Il entra dans la cour d'un pas assez ferme. Le bureau de police était situé au 3e étage. Avant que je sois monté là-haut, j'ai encore le temps de me retourner, pensait le jeune homme. Tant qu'il n'avait pas avoué, il aimait à se dire qu'il pouvait changer de résolution. Comme lors de sa première visite, il trouva l'escalier couvert d'ordures, empuanti par les exhalaisons que vomissaient les cuisines ouvertes sur chaque palier. Ses jambes se dérobaient sous lui, tandis qu'il montait les marches. Un instant, il s'arrêta pour reprendre haleine, se remettre, préparer son entrée. « À quoi bon, pourquoi ?» se demanda-t-il tout à coup. « Puisqu'il faut vider cette tasse, peu importe comment je la boirai. Plus elle sera amère, mieux cela vaudra. » Puis s'offrit à son esprit l'image d'Ilia Pietrovitch, le lieutenant Poudre. « Au fait, est-ce à lui que je vais parler ? Ne pourrais-je pas m'adresser à un autre, à Nikodim Forbitch, par exemple ? Si j'allais de ce pas trouver le commissaire de police à son domicile personnel et lui raconter la chose dans une conversation privée ? Non, 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 je parlerai à Poudre, ce sera plus vite fini. » Frissonnant, ayant à peine conscience de lui-même, Raskolnikov ouvrit la porte du commissariat. Cette fois, il n'aperçut dans l'antichambre qu'un dvornik et un homme du peuple. L'appariteur ne fit même pas attention à lui. Le jeune homme passa dans la pièce suivante où travaillaient deux scribes. Zamietov n'était pas là, Nikodim Formitch non plus. « Bien personne ?» fit le visiteur en s'adressant à l'un des employés. « Que demandez-vous ? » « Ah ah !» Sans entendre ses paroles, sans voir son visage, j'ai deviné la présence d'un Russe, comme il est dit dans je ne sais plus quel conte. « Mon respect !» jeta brusquement une voix connue. Raskolnikov tressaillit. Poudre était devant lui. Il venait de sortir d'une 3e chambre. Ah, « la destinée l'a voulu, » pensa le visiteur. « Mais comment est-il ici ?»« Vous, chez nous, ah, quelle occasion !» s'écria Ilia Pietrovitch, qui paraissait de très bonne humeur et même un peu lancé. « Si vous êtes venu pour affaire, oh, il est encore trop tôt. C'est même par hasard que je me trouve ici. Du reste, en quoi puis-je ? J'avoue que je ne vous... Comment, pardonnez-moi, Raskolnikov. Ah oui, Raskolnikov. Avez-vous pu croire que j'avais oublié ? Oh, je vous en prie, ne me croyez pas si... Rodionitch, n'est-ce pas ? Rodion Romanitch. Oui, Rodion Romanitch, Rodion Romanitch. Je l'avais sur la langue. Je vous avoue que je regrette sincèrement la façon dont nous avons agi avec vous dans le temps. Plus tard, on m'a expliqué les choses. J'ai appris que vous étiez un jeune écrivain, un savant même. J'ai su que vous déboutiez dans la carrière des lettres. Eh mon Dieu! Quel est le littérateur, quel est le savant qui, à ses débuts, n'a pas mené plus ou moins la vie de bohème? Ma femme et moi, nous estimons l'un et l'autre la littérature. Mais chez ma femme, c'est une passion. Elle raffole des lettres et des arts. Sauf la naissance, tout le reste peut s'acquérir par le talent, le savoir, l'intelligence, le génie. Un chapeau, par exemple, qu'est-ce que cela signifie? Un chapeau est une galette, je l'achète chez Zimmermann. Mais c'est qui s'abrite sous le chapeau? Cela, je ne l'achète pas. J'avoue que je voulais même me rendre chez vous pour vous fournir des explications, mais j'ai pensé que peut-être vous... Bon, avec tout cela, je ne vous demande pas quel est l'objet de votre visite. Il paraît que votre famille est maintenant à Pétersbourg. Oui, ma mère et ma sœur. J'ai même eu l'honneur et le plaisir de rencontrer votre sœur. Oh, c'est une personne aussi charmante que distinguée. Vraiment, je déclare de tout mon cœur l'altercation que nous avons eue ensemble autrefois. Quant aux conjectures fondées sur votre évanouissement, on en a reconnu depuis l'éclatante fausseté. Je comprends l'indignation que vous en avez ressentie. À présent que votre famille habite Pétersbourg, vous allez peut-être changer de logement. Non, pas pour le moment. J'étais venu demander, enfin, je croyais trouver ici Zamietov. Ah oui, c'est vrai, vous étiez lié avec lui. Je l'ai entendu dire. Ah, eh bien, Zamietov n'est plus chez nous. Oui, nous avons perdu Alexandre Grigorievitch. Il nous a quittés depuis hier. Il y a même eu avant son départ un échange de gros mots entre lui et nous. C'est un petit galopin sans consistance, rien de plus. Il avait donné quelques espérances, mais il a eu le malheur de fréquenter notre brillante jeunesse, et il s'est mis en tête de passer les examens pour pouvoir faire de l'embarras et trancher du savant. Bien entendu, Zamietov n'a rien de commun avec vous, par exemple, ou avec M. Razoumikhin, votre ami. Vous autres, vous avez embrassé la carrière de la science et les revers n'ont aucune prise sur vous. À vos yeux, les agréments de la vie ne sont rien. Vous menez l'existence austère, ascétique, monacale de l'homme d'étude. Un livre, une plume derrière l'oreille, une recherche scientifique à faire, cela suffit à votre bonheur. Moi-même, jusqu'à un certain point, avez-vous lu la correspondance de Livingston? Non. Moi, je l'ai lu. Maintenant, du reste, le nombre de nihilistes s'est considérablement accru, et ce n'est pas étonnant à une époque comme la nôtre. De vous à moi, sans doute, vous n'êtes pas nihiliste. Répondez franchement, franchement. Non. Oh, vous savez, n'ayez pas peur d'être franc avec moi, comme vous le seriez avec vous-même. Autre chose est le service, autre chose... Ah, vous croyez que j'allais dire l'amitié? Ah non, vous vous êtes trompé. Pas l'amitié, mais le sentiment de l'homme et du citoyen, le sentiment de l'humanité et de l'amour pour le Tout-Puissant. Je puis être un personnage officiel, un fonctionnaire. Je n'en dois pas moins sentir toujours en moi l'homme et le citoyen. Vous parliez de Zamietov. Eh bien, Zamietov est un garçon qui copie le chic français, qui fait du tapage dans les mauvais lieux quand il a bu un verre de champagne ou un verre du don. Voilà ce qu'est votre Zamietov. Bon, j'ai peut-être été un peu vif avec lui, mais si mon indignation m'a emporté trop loin, elle avait sa source dans un sentiment élevé, le zèle pour les intérêts du service. D'ailleurs, je possède un rang, une situation, une importance sociale. Je suis marié, père de famille. Je remplis mon devoir d'homme et de citoyen, tandis que lui, qu'est-il? Permettez-moi de vous le demander. Je m'adresse à vous comme un homme favorisé du bienfait de l'éducation. Tenez, les sages-femmes se sont aussi multipliées au-delà de toute mesure. Raskolnikov regarda le lieutenant d'un air ahuri. Les paroles d'Ilia Petrovitch, qui évidemment sortaient de table, résonnaient pour la plupart à ses oreilles comme des mots vides de sens. Toutefois, il en comprenait tant bien que mal une partie. En ce moment, il questionnait des yeux son interlocuteur et ne savait comment tout cela finirait. Bon, je parle de ces jeunes filles qui portent les cheveux coupés à la Titus, continua l'intarissable Ilia Petrovitch. Je les appelle les sages-femmes, et le nom me paraît très bien trouvé. Elles suivent des cours de médecine, elles étudient l'anatomie. Alors, dites-moi que je vienne à être malade, est-ce que je me ferai traiter par une demoiselle? Ilia Petrovitch se mit à rire, enchanté de son esprit. J'admets la soif de l'instruction, mais ne peut-on pas s'instruire sans donner dans tous ses excès? Pourquoi être insolent? Pourquoi insulter de nobles personnalités comme le fait ce vaurien de Zamietov? Pourquoi m'a-t-il injurié? Je vous le demande. Et une autre épidémie qui fait de terribles progrès, c'est celle du suicide. On mange tout ce qu'on a et ensuite on se tue. Des fillets, des jouvenceaux, des vieillards se donnent la mort. Tenez, nous avons encore appris tantôt qu'un monsieur récemment arrivé ici venait de mettre fin à ses jours. Nil Pavlitch, Nil Pavlitch, comment se nommait le gentleman qui s'est brûlé la cervelle ce matin dans le Petersburgskaya? Svridigailov, répondit d'une voix enrouée quelqu'un qui se trouvait dans la pièce voisine. Raskolnikov frissonna. Svridigailov? Svridigailov s'est brûlé la cervelle? S'écria-t-il. Comment, vous connaissiez Svridigailov? Oui, je le connaissais. Il était arrivé depuis peu ici. Oui, en effet, il est arrivé depuis peu. Il avait perdu sa femme, c'était un débauché. Il s'est tiré un coup de revolver dans des conditions particulièrement scandaleuses. On a trouvé sur son cadavre un carnet où il avait écrit quelques mots. Je meurs en possession de mes facultés intellectuelles. Qu'on n'accuse personne de ma mort. Oh, cet homme-là avait, dit-on, de la fortune. Mais comment donc le connaissiez-vous? Enfin, ma sœur avait été institutrice chez lui. Mais alors vous pouvez nous donner des renseignements sur lui. Vous n'aviez aucun soupçon de son projet? Ben, je l'ai vu hier, il buvait du vin. Je me suis douté de rien. Raskolnikov sentait comme une montagne sur sa poitrine. Ah, voilà que vous pâlissez encore, semble-t-il. Oh, l'atmosphère de cette pièce est si étouffante. Oui, il est temps que je m'en aille, balbutia le visiteur. Excusez-moi, je vous ai dérangé. Allons donc, je suis toujours à votre disposition. Vous m'avez fait plaisir et je suis bien aise de vous déclarer. En prononçant ces mots, Ilia Petrovitch tendit la main au jeune homme. Je voulais seulement J'avais affaire à un ami étoffe. Ben, je comprends, je comprends. Charmé de votre visite. Je suis enchanté. Au revoir, fit Raskolnikov avec un sourire. Il sortit d'un pas chancelant. La tête lui tournait, il pouvait à peine se porter, et en descendant l'escalier, force lui fut de s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Il lui sembla qu'un dvornik, qui se rendait au bureau de police, le heurtait en passant, qu'un chien aboyait quelque part au premier étage et qu'une femme criait pour faire taire l'animal. Arrivé au bas de l'escalier, il entra dans la cour. Debout, non loin de la porte, Sonia, pâle comme la mort, le considérait d'un air étrange. Il s'arrêta en face d'elle. La jeune fille frappa ses mains l'une contre l'autre. Sa physionomie exprimait le plus affreux désespoir. À cette vue, Raskolnikov sourit, mais de quel sourire! Un instant après, il rentrait au bureau de police. Ilia Pietrovitch était en train de fouiller dans ses paperasses. Devant lui se tenait ce même moujik qui, tout à l'heure, en montant l'escalier, avait heurté Raskolnikov. Ah, oui, vous avez oublié quelque chose? Mais qu'avez-vous? Les lèvres blêmes, le regard fixe, Raskolnikov s'avança lentement vers Ilia Pietrovitch. S'appuyant de la main à la table devant laquelle le lieutenant était assis, il voulut parler, mais ne put proférer que des sons inintelligibles. Oh, vous êtes souffrant, une chaise. Voilà, asseyez-vous, de l'eau. Raskolnikov se laissa tomber sur le siège qu'on lui offrait, mais ses yeux ne quittaient pas Ilia Petrovitch, dont le visage exprimait une surprise fort désagréable. Pendant une minute, tous deux se regardèrent en silence. On apporta de l'eau. C'est moi, commença Raskolnikov. Buvez! Le jeune homme repoussa du geste le verre qui lui était présenté et d'une voix basse mais distincte, il fit en s'interrompant à plusieurs reprises la déclaration suivante. C'est moi qui est assassiné à coups de hache pour les voler, la vieille prêteuse sur gage et sa sœur Élisabeth. Ilia Pietrovitch appela. De tous côtés, on accourut. Raskolnikov renouvela ses aveux.